Vendredi 3 janvier, vous reprenez le travail encore un peu ballonné et déjà vous regardez combien de semaines vous séparent de vos prochaines vacances. Celles au ski en février, un luxe que vous vous offrez une année sur trois. Savez-vous que régulièrement vous skiez sur de la neige de culture ? Nous nous téléporterons à Grenoble dans un instant pour lire l'avenir dans la neige. Pourra-t-on encore skier dans les Alpes en 2050 ? Comment les stations s'organisent face au dérèglement climatique ? Vous qui avez une peur bleue des pentes rouges, qui, moi, peut-être, ou vous qui skiez sur le verglas aussi bien que sur la poudreuse, vos témoignages et vos réactions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et sur l'application mobile France Inter. Dans la seconde demi-heure de la Terre au carré, vos solutions pour la planète, nous serons en ligne avec un homme qui milite depuis 30 ans contre une cimenterie des Yvelines en Ile-de-France. Il y a quelques mois, cette cimenterie a obtenu le droit d'exploiter une carrière dans le parc du Vexin. Olivier Nielus nous racontera comment il se mobilise contre. Caroline Tourbe, bonjour.
Bonjour Elodie.
Un peu après 14h, votre chronique détox.
Oui, on va se demander s'il faut nourrir les oiseaux en hiver ou il faudrait peut-être mieux les laisser se débrouiller.
Rendez-vous dans une demi-heure. Puis en fin d'émission, ne nous remerciez pas, nous vous mettons le pied à l'étrier pour cocher certaines de vos résolutions 2020. Et si vous vous engagez dans une association verte, laquelle, pourquoi, comment, notre invité découverte vous livrera quelques astuces. Cette Terre au carré est réalisée par Valérie Ayestaraï avec à la technique Pauline Laverdure et Fabrice Desmaz. Bienvenue.
Élodie Font. La Terre au carré. Sur France Inter.
Piqué du bâton, extension. Flexion, piqué du bâton, extension. Flexion, piqué du bâton, extension.
Bon. Ça suffit, j'en ai assez, on arrête.
Voulez-vous qu'on aille prendre un verre de vin chaud ?
Ouais.
Les bronzés, on devrait continuer à les entendre, hein, mais ce sont des skis qui glissent sur la neige. Est-ce que c'est un son que l'on n'entendra plus dans 30 ans ? Bonjour Emmanuel Georges.
Bonjour.
Vous dirigez l'unité développement des territoires montagnards de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement à Grenoble. Et bonjour Samuel Morin.
Oui, bonjour.
Vous dirigez le Centre d'études de la neige de Météo France et du CNRS près de Grenoble et vous êtes membre du GIEC. Vous êtes tous les deux dans le même studio à Grenoble en duplex. Je ne vous vois pas, mais vous voyez. Vous vous connaissez d'ailleurs tous les deux. Il vous arrive même de travailler ensemble. Vos derniers travaux ensemble, c'était quoi, Emmanuel Georges?
Alors, nos derniers travaux portent sur une commande du département de l'Isère qui visait à évaluer sur l'ensemble des 23 stations iséroises les conditions d'enneigement sur les domaines skiables, à la fois sur la période passée, donc les 50 dernières années, et également en projection climatique à horizon 2050 pour évaluer les évolutions des conditions d'enneigement à cet horizon temporel-là en fonction des scénarios du GIEC.
L'enneigement, justement, l'enneigement des stations de ski, il est très variable d'une année à l'autre. Est-ce que cette année 2020 est pour l'instant une bonne année pour la neige, Samuel Morin ? Et qu'est-ce que l'on entend d'ailleurs par bonne année pour la neige ?
Une bonne année pour la neige, ben ça dépend du point de vue, hein. Ça dépend si on est skieur hors piste, ça dépend si on est exploitant de domaine skiable, ça dépend si on s'intéresse aux risques naturels, aux avalanches. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que l'enneigement a été très précoce au mois de novembre, hein. Rappelez-vous les chutes de neige qui étaient généralisées dans les Alpes et les Pyrénées. Et puis depuis, on peut dire qu'on a retrouvé un enneigement relativement habituel ces dernières années, c'est-à-dire des quantités de neige assez importantes à très haute altitude, que ce soit dans les Alpes ou dans les Pyrénées, et puis un enneigement relativement faible, parfois inexistant, dès qu'on s'approche des moyennes montagnes et des basses altitudes, qui est quelque chose qui n'est pas particulièrement inhabituel pour cette saison décembre, début janvier. C'est relativement régulier d'avoir des conditions d'enneigement relativement faible à basse altitude.
Alors sur ces territoires des Alpes où le tourisme lié au sport d'hiver a une vraie importance, hein, on s'en doute qu'il y ait de la neige ou non, en tout cas qu'il y ait de la bonne neige ou non, il y aura forcément des gens qui viendront skier. C'est capital d'un point de vue économique, Emmanuel Georges, ce tourisme.
Oui, tout à fait. Je pense que cette question de la place et du rôle structurant des stations dans les territoires de montagne, c'est une question d'importance, c'est une question qui trouve son origine dans l'histoire du développement des stations en France, puisqu'on a fait des stations comme des outils d'aménagement du territoire pour trouver des opportunités de développement par rapport à un déclin agricole, pastoral et démographique. Et puis aujourd'hui, face aux difficultés que connaissent les stations, eh bien, on réaffirme le rôle structurant des stations dans ces territoires en mettant en avant leur rôle en termes de marché de l'emploi, en termes d'activités induites qui sont générées, et puis en maintien d'une vie à l'année, ou le plus possible à l'année, dans ces territoires-là.
Cela représente environ 120 000 emplois, hein, c'est ça, dans les Alpes?
Oui, alors ça, ce sont des chiffres effectivement qu'on mobilise très souvent, les 120 000 emplois directs ou indirects qui sont générés par le tourisme de montagne, et c'est aussi 9 milliards d'euros qui sont générés par le tourisme de montagne dans son ensemble. Après, on a relativement peu d'analyses fines, territoire par territoire, qui montrent la réalité des retombées économiques, financières ou plus larges, hein, de ce que représentent les stations dans les territoires de montagne, et ça reste un champ qu'il faudrait investir de manière à avoir des données empiriques qui soient vraiment fines et objectivées.
Plus fiables en tout cas. Emmanuel Georges, à partir de quand on a commencé à développer cette économie de la neige ?
Alors, les stations ont plus de 100 ans d'existence en France. On a commencé à la fin du 19e, au début avec tout ce début du 20e avec les stations dites villages, où on a créé des stations autour de villages existants. Et puis, vraiment, la période la plus forte en termes de développement des stations en France, c'est le plan neige dans les années 60, où on a, dans une logique d'aménagement du territoire, créé une véritable industrie du sport d'hiver avec aujourd'hui environ 250 ou 300 stations dans l'ensemble du territoire, donc avec véritablement cette volonté, on a d'ailleurs appelé ça la bataille de la neige, de créer une industrie qui soit capable de concurrencer les destinations qui sont encore aujourd'hui nos concurrents, c'est-à-dire l'Autriche par exemple, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie.
Oui, la France est numéro 3, hein, juste derrière les États-Unis et l'Autriche.
Oui, ça varie. On est en général dans le trio de tête. Selon les années, on change un peu de position, mais globalement, on est dans ce trio de tête avec l'Autriche et les États-Unis.
Sauf que les données climatiques à long terme montrent que l'épaisseur du manteau neigeux a baissé, en particulier à moyenne altitude. Ça s'explique uniquement par le réchauffement climatique ou il y a d'autres facteurs, Samuel Morin?
Non, l'élévation des températures, c'est vraiment le facteur principal qui induit la baisse de l'enneigement, et en particulier à moyenne montagne, dans la mesure où quand il fait plus chaud, en fait, les précipitations tombent de plus en plus sous forme de pluie et de moins en moins sous forme de neige, dès qu'on franchit la barre fatidique de 0 à 1 degré qui fait la transition entre la pluie et la neige en fonction de l'altitude. Et puis, dans un deuxième temps, au cours de la saison hivernale, plus il fait chaud, plus la neige fond vite. Et donc, l'accroissement de température qu'on constate dans un grand nombre de territoires de montagne en France comme ailleurs, induit un double effet sur l'enneigement, une raréfaction des chutes de neige au bénéfice des chutes de pluie, et une accélération de la fonte de la neige, même si cette accélération de la fonte, elle joue surtout au printemps, et donc c'est pas forcément cet effet-là qui est le plus déterminant pour l'activité des domaines skiables.
Les chiffres sont assez évocateurs, hein. En moyenne montagne, les modèles laissent penser que l'enneigement baissera de 10 à 40%, donc c'est quand même assez large, hein, comme fourchette, de 10 à 40% d'ici à 2050, quelles que soient les mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que à ce rythme, il n'y aura plus de neige naturelle dans les Alpes à moyenne altitude d'ici à 2050? En tout cas, beaucoup moins et vraiment peu pour skier.
D'ici 2050, en fait, en effet, le climat est une certaine inertie qui fait que, quelles que soient les réductions ou pas d'émissions de gaz à effet de serre à partir d'aujourd'hui pour les prochaines décennies, finalement, jusqu'à 2050, ça ne changera pas grand-chose, hein, sur l'évolution du climat et sur son impact en matière de température et de précipitations neigeuses. Et ce qu'on constate et ce qu'on constate à la fois dans les observations et dans les projections climatiques, c'est une raréfaction, mais qui se superpose à de grandes variations d'une année à l'autre, c'est-à-dire qu'on aura de plus en plus d'hivers moins bien enneigés qu'aujourd'hui, de plus en plus d'hivers effectivement où les conditions seront délicates, et de moins en moins d'hivers très bien enneigés par rapport aux données historiques dont on dispose. Mais ça ne veut pas dire la disparition de la neige à l'échéance 2050. Même à basse altitude, on pourra de temps en temps avoir des conditions d'enneigement qui correspondent à peu près à l'idée qu'on se fait aujourd'hui de l'hiver dans les zones de montagne, mais ce sera de moins en moins fréquent. Voilà. Donc il faut vraiment imaginer que c'est pas un petit peu moins de neige chaque année, mais c'est vraiment une évolution
sur
le long terme, avec des conditions défavorables qui se représenteront de plus en plus souvent, et ce, effectivement, à moyenne altitude et puis à des altitudes de plus en plus élevées.
Les stations, évidemment, sans doute, se préparent et elles misent, entre autres, sur la neige de culture dont l'usage s'envole en France. Qu'est-ce que c'est exactement la neige de culture? Je ne sais pas lequel des deux veut répondre.
Donc la neige de culture, c'est avant tout une pulvérisation de gouttelettes d'eau qui sont envoyées dans l'air hein, par les enneigeurs ou les canons, suivant comment on veut les appeler, et qui congèlent avant d'atterrir au sol. Donc c'est un petit peu différent des flocons de neige qui viennent des nuages, hein, mais finalement la composition chimique c'est la même, hein, c'est de l'eau sous forme de cristaux de glace qui sont pour la neige de culture sphériques et qui constituent une couche de neige supplémentaire qui vient soit être produite avant les chutes de neige naturelles, soit pour renforcer un enneigement naturel défavorable, ou voire même pour, de façon maintenant de plus en plus banale, être utilisé comme un outil de gestion de la neige dans les domaines skiables, où la neige de culture est produite dès le mois de novembre et décembre pour préparer ce qu'on appelle la sous-couche, donc une quantité de neige basale qui est posée sur les pistes, sur laquelle il sera de plus en plus facile au cours de la saison de travailler les chutes de neige naturelles qui s'accumuleront par-dessus.
Mais Emmanuel Georges, la neige de culture, ça consomme beaucoup d'eau, ça consomme beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors, nous ne sommes pas des spécialistes de la gestion de la ressource en eau. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats et de controverses, en particulier portés par les associations de protection de l'environnement, sur le fait que derrière la neige, c'est certes de l'eau, donc avec une ressource en eau qui, dans les milieux montagnards, est une ressource critique. On va chercher la ressource en eau à un moment où les débits, par exemple dans les cours d'eau, sont au plus bas. Donc, il y a évidemment cette pression-là sur la ressource en eau qui est variable hein, selon qu'on se trouve dans un milieu karstique ou un autre milieu où la ressource en eau est bien présente. Donc il y a une grande diversité de situations. Et puis c'est aussi une question d'énergie, puisque comme Samuel vient de le rappeler, on envoie de l'eau avec une pression, donc il faut avoir de l'énergie disponible. Et ce qui se joue aujourd'hui dans les stations, c'est que de plus en plus il faut être en capacité de lancer tous les équipements de production de neige de culture au même moment, quand les créneaux de froid sont disponibles, de manière à être en capacité de produire la neige au bon moment et en quantité voulue. Donc il y a clairement des débats sur la pression eau et énergie.
Vous qui nous écoutez, est-ce que vous faites attention à la manière dont les stations se préparent à ce dérèglement climatique dans la montagne ? Vos réactions, vos témoignages au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque ou sur franceinter.fr. Emmanuel Georges, Samuel Morin en duplex de Grenoble. Restez avec nous, toutes les questions des auditeurs dans moins de 10 minutes.
France Inter. La Terre au carré.
Mais avant, écoutons ensemble une nouvelle diffusion de la chronique Camille passe au vert de Camille Cronier. Le 6 septembre, Camille est allée enquêter pas très loin, à la cantine de Radio France. Elle racontait à Mathieu Vidard ses découvertes.
Que deviennent nos déchets une fois qu'on a fini de manger ? Me voilà donc partie du bureau à midi, pile comme tous les jours, Mathieu, pour le troisième étage de la maison de la radio. Hop, un plateau, fourchette, couteau, cuillère, verre, et c'est parti.
Bonjour, je vais prendre de quinoa et gratin de courgettes, s'il vous plaît.
Ouais, alors j'essaie d'être exemplaire.
Un peu de tomate mozzarella, une mousse au chocolat et un yaourt en pot de verre. Je vais prendre une canette de Perrier. Allez, hop.
Alors ça fait beaucoup, mais il fallait de la variété pour mener ma petite enquête. Donc je récapitule sur mon plateau de la nourriture, du plastique, du verre, du papier, les petits sachets de sel poivre et le ticket de caisse et la serviette, et de l'aluminium à table. Bon, je vous épargne le repas.
Merci.
Et qu'on me pardonne, j'ai fait exprès de gaspiller un peu pour qu'il reste de la nourriture au milieu des déchets. Direction le tapis roulant qui emporte nos plateaux, où j'ai constaté qu'en fait, je ne suis pas seule à n'avoir aucune idée de ce qui se passe après.
Est-ce que vous savez ce que deviennent vos déchets du plateau une fois que vous avez débarrassé ?
Pas du tout.
Vous pensez que c'est trié ?
Ouais, je pense. J'espère.
Il y a des gens qui les trient et qui les mettent dans les poubelles, je pense.
Je ne sais pas s'ils font le tri.
Ça part de l'autre côté, là. Et puis après, comme on n'a pas la visibilité, on n'a pas d'informations là-dessus.
Alors allons donc voir de l'autre côté avec le chef de la cuisine, Pascal.
Bah là, on est dans la plonge.
Donc là, c'est l'envers du décor.
C'est l'envers du décor, exactement. C'est là où on trie les assiettes, les couverts, pour qu'ils soient passés dans deux machines différentes.
Alors vous avez entendu, hein, on trie les assiettes, les couverts, parce que les restes sur le plateau...
Vous triez pas, tout est mélangé dans
on
la
est
poubelle.
Mélangé, on met tout.
Voilà, tout dans la poubelle. Il y a des canettes, des pots de yaourt, y compris en verre, des restes de pastèques, les arêtes d'un poisson, des gobelets en carton, le bateau en bois des brochettes, etc. etc. Bref, tout donc, comme disait le monsieur, qui n'y est pour rien. Hein, première explication du chef de cuisine.
Comme on n'a pas de broyeur, comme vous pouvez le constater, on a un broyeur qui là, malheureusement, ne fonctionne pas. Et généralement, tous les produits organiques et plastiques sont passés dans ce broyeur, qui les compactent, les assèchent et sont mis en poubelle après.
Mais il est en panne depuis quand ?
8 mois.
8 mois.
Le broyeur est donc cassé, mais cela dit, vous avez entendu aussi, il ne faisait que réduire donc le volume des déchets sans faire de tri là encore. Alors que la loi est claire depuis le 1er janvier 2015. Pour des établissements comme la Maison de la Radio qui fait 1300 couverts par jour. Le tri sélectif est obligatoire, mais donc on ne le fait pas. Et Philippe, cette fois, monsieur cantine à Radio France, assume.
Rien n'est trié à la cantine aujourd'hui. Tout fini dans tes sacs poubelles et bah fini voilà, dans les poubelles de Radio France. Donc voilà, pour l'instant, on est vraiment, on peut dire qu'on n'est pas dans les clous.
Alors la direction est au courant et vous allez me dire, mais que fait-elle depuis 5 ans, enfin, cette hors-la-loi du déchet organique ? Eh bien, je suis allée demander au directeur de l'établissement, il s'appelle Tammy Moury.
Ces difficultés, elles ont été décelées rapidement lorsque la réglementation est apparue. Il a fallu réfléchir sur son mode de mise en œuvre. Et effectivement, 5 ans après, on identifie maintenant les solutions et on espère pouvoir les mettre en œuvre.
Alors, hop, ne vous emballez pas, le chemin est long.
Ça nécessite la première intervention d'un bureau d'études qu'on a mandaté pour auditer en fait l'ensemble du process de tri des déchets. C'est la première étape. Cet audit va nous fournir des préconisations et va nous accompagner pour ensuite lancer une maîtrise d'œuvre.
Les travaux, du coup, commenceront quand ?
Du coup, à l'issue de cette maîtrise d'œuvre, on envisage de mettre en place ces travaux à partir du second semestre 2020.
Voilà, donc peut-être que dans un an, on pourra enfin trier nos déchets. Après tout, nous aussi, nous sommes en transition, n'est-ce pas ? Il ne restera plus à régler que l'autre gros sujet à la cantine, j'ai nommé le gaspillage alimentaire. Vous avez donc maintenant tous intérêt à finir vos assiettes, moi compris, si vous ne voulez pas que je vous grille.
Camille Passauvert a réécouté sur franceinter.fr. Le tourisme est-il en train d'abîmer la montagne ? Vos questions sur l'enneigement des stations de ski et sur ce qu'elles font pour verdir leurs pratiques, dès maintenant au 01 45 24 7000. Tout de suite, préparez-vous à avoir la trace du bronzage sur le visage, du soleil sur les pistes. Omar Souleymane sur France Inter.
شتريدين انتي عالروح تمونين شتريدين انتي عالروح تمونين نسوي شهر العسل بروما ولا برلين نسوي شهر العسل بروما ولا برلين بس بيدك عشريني شتريدين وقوليلي بس بيدك عشريني انتي يا قمر ليلي حياتي ودرب تنورين انتي يا قمر ليلي حياتي ودرب تنورين يعجبني دلالج لو من بالعين تخمسين
شافني دلالج لو من بالعين تخمزين
L'artiste syrien Omar Souleyman avec Chitridine.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Élodie Font sur France Inter.
Nous sommes gâtés dans la Terre au carré aujourd'hui. Deux invités, tous deux en duplex de Grenoble. Emmanuel Georges, qui dirige l'unité développement des territoires montagnards de l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement à Grenoble. Et Samuel Morin, qui lui dirige le Centre d'études de la neige, Météo France et du CNRS, juste à côté de Grenoble. Toutes vos questions sur l'avenir de la neige, dès maintenant, au 01 45 24 7000. Nous sommes en ligne avec Philippe. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Votre
déjà,
question.
Merci pour votre émission, et mes heureux.
À vous aussi.
Et donc, je salue vos invités. Donc, ma question est très simple. Donc, j'ai entendu tout à l'heure un de vos intervenants parler de la neige artificielle comme n'étant que de l'eau glacée. Moi, je pose une question. Est-ce qu'il y a différentes techniques de fabrication? Moi, j'ai entendu parler de ciment à neige. Je voudrais savoir à quelle hauteur cette neige est propulsée par les canons. Parce qu'à mon avis, pour que
les canons à neige
se transforment en eau. Voilà. Donc, voilà, c'est des questions pratiques. Je voudrais savoir.
Comment on crée de la neige artificielle? Merci, Philippe.
Voilà. Merci.
Samuel Morin.
Oui, alors le principe, effectivement, il y a différents types d'enneigeurs. Il y en a qui sont sous forme de perches, qu'on voit souvent sur le bord des pistes, et il y en a qui sont sous forme de gros ventilateurs. Mais que ce soit l'un ou l'autre, finalement, le principe est le même. On pulvérise de l'eau sous pression à proximité d'air sous pression. Alors le dosage dépend justement des différents types et des différentes méthodes, mais le principe physique est le même. On pulvérise des petites gouttes d'eau quelques mètres au-dessus des pistes. Hein. On parle de 5, 6, 7 mètres au-dessus des pistes. Et puis cette eau détendue à très forte vitesse et à haute pression dans l'air congèle lors de son trajet dans l'atmosphère et puis retombe sur la piste de façon, ben, c'est bien l'objectif, de façon la plus glacée possible. Et effectivement, ça dépend des conditions de température pour choisir quel est le débit d'eau qui est utilisé pour les enneigeurs pour cette production de neige. Alors, il y a une autre technique qui est en train d'émerger, mais qui pour aujourd'hui, à l'heure actuelle, en très petite quantité de production de neige, hein, c'est quelque part des systèmes où on produit de la glace dans des containers, et ensuite cette glace est pilée, et pour reproduire un petit peu le comportement mécanique de la neige, ça permet de produire de la neige. Alors c'est difficile de l'appeler la neige dans ce cas-là, mais c'est de produire ce matériau de glace pilée très très fin. Ça permet de le produire, y compris quand il fait trop chaud, pour produire de la neige avec la méthode conventionnelle où on pulvérise des gouttelettes d'eau. Mais dans quelle que soit la technique dont on fait usage, c'est encore une fois une pulvérisation d'eau ou de l'eau gelée qui est retrouvée sous forme de neige.
Et j'ai lu que pour un hectare à enneiger, il faut pulvériser 4000 mètres cubes d'eau, donc l'équivalent d'une piscine olympique. C'est énorme quand même, hein ?
Alors ça dépend du point de vue, hein. Ça dépend si un hectare c'est grand ou petit dans votre esprit, hein. C'est vraiment ces questions d'ordre de grandeur qui sont difficiles à manipuler. Mais effectivement, il faut une certaine quantité d'eau pour produire la neige. Maintenant, l'enjeu, c'est de savoir comment cette quantité d'eau se compare aux ressources disponibles dans un bassin versant dans lequel on retrouve un domaine skiable, et comment ça se compare à la neige qui tombe naturellement du ciel et à la pluie qui tombe aussi au cours d'une saison et qui alimente les différents usages de l'eau, que ce soit pour l'agriculture, pour la faune, la flore, les usages humains et évidemment l'usage de l'eau en aval à forte distance des montagnes. Mais toutes ces données, effectivement, il faut les mettre en perspective et peut-être pas s'attacher strictement au volume d'eau que représente strictement un hectare de piste. Ça dépend vraiment du point de vue, ça dépend vraiment de la façon dont on met en perspective ces chiffres.
Gueltaz nous dit sur l'application France Inter, depuis quelques années, j'entends parler de neige de culture, on vient de le faire. Il y a 20 ou 30 ans, j'entendais parler de neige artificielle. N'y a-t-il pas une volonté de donner un nom politiquement correct à une production artificielle de neige?
Alors, C'est vrai qu'il y a récemment eu beaucoup de débats et de controverses sur cette question de la neige et de ce qu'elle représentait, cette neige de culture. Et du coup, il y a eu un travail aussi, peut-être, je ne sais pas si on peut l'appeler de communication, autour de la neige de culture, qu'on appelle plutôt de cette manière-là, au lieu de neige artificielle, de même qu'on n'utilise pas le terme canon à neige, mais plutôt enneigeur. Donc ça, c'est certains y voient du green washing derrière, mais c'est je dirais un travail aussi que les opérateurs de remontée mécanique ont pu faire sur ce qu'est cette neige, ce qu'elle représente dans leur économie de station. Après, c'est clair que derrière, c'est un peu comme Samuel vient de le dire, il faut prendre en compte ce qu'il y a derrière cette neige de culture en termes de chiffres d'eau, en termes de chiffres d'énergie et de ce que ça amène en termes de skiabilité pour ces stations.
Le gros problème écologique des stations, Emmanuel Georges, on le sait moins en fait, c'est le transport des touristes qui arrivent et repartent en voiture dans les stations. Ce sont aussi les bâtiments qui ne servent que 3 ou 4 mois dans l'année et qui sont très énergivores. Ce sont les centres de traitement des eaux usées qui ne sont pas en capacité de traiter la demande très importante au moment des pics de tourisme. En fait, c'est ça aussi qui pollue la montagne.
Alors, je ne sais pas si c'est uniquement à voir sous l'angle pollution. Ce qui est sûr, c'est qu'une station ne s'arrête pas à son domaine skiable. C'est clair que le domaine skiable est le produit d'appel de ce qui fait l'attraction d'une station. Après, c'est tout un écosystème dans lequel, vous venez de le dire, il y a de la mobilité qu'il faut organiser. Il y a l'immobilier de loisirs. On oublie souvent que le deuxième pied du modèle des stations de sports d'hiver, c'est cette question de l'immobilier de loisirs qu'on a fait dans des années 60 où la question de l'énergie n'était pas vraiment à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, on a un parc d'hébergement en France essentiellement sous forme de résidence secondaire de ces années-là, qui est devenu soit obsolète, soit qui est à adapter par rapport aux normes énergétiques, par exemple. Donc ça, c'est un vrai défi pour l'économie des sports d'hiver et des territoires, de manière à ce que ce deuxième pied du modèle de station soit adapté et remis, je dirais, au standard actuel. Donc ça, c'est vraiment un élément central qui fait que aujourd'hui, on a plutôt tendance à continuer à construire du neuf dans certains endroits que de réhabiliter, parce que c'est compliqué et qu'il y a besoin d'outils juridiques à inventer. Donc ça, c'est un vrai débat. Et puis le transport, vous l'avez dit, pour essayer de faire en sorte que la voiture individuelle soit moins utilisée et que ce fameux dernier kilomètre d'accès aux stations soit résolu de manière à ce qu'on ait de la mobilité la plus douce possible pour accéder aux destinations.
On avance généralement assez peu. Lucie nous pose la question sur l'application France Inter, vous pose la question. Il faudrait peut-être revoir le modèle économique des régions de moyenne altitude. Le week-end dernier, dans la station de Montclar, on a déplacé de la neige par hélicoptère pour que les skieurs puissent arriver en bas des pistes de ski. Lequel des deux veut réagir?
En fait, sur le il faudrait, en fait, ça dépend du point de vue, encore une fois. Nous, en tant que scientifiques, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut ou ne pas faire. Mais évidemment, on apporte des éléments au débat et effectivement, les habitants, les parties prenantes de ces régions de montagne ont de plus en plus d'informations à leur disposition pour guider leur choix et pour prendre les décisions qui peuvent s'imposer dans certains cas face à la fois l'évolution climatique et puis l'évolution du modèle de développement. Emmanuel?
Oui, et par rapport à ce modèle, il y a aussi la question de la diversification de l'économie des territoires de montagne, donc la diversification de l'offre en hiver, mais aussi en été. Et ça, ce sont des stratégies d'adaptation au changement global, pas seulement climatique, qui sont soutenues aujourd'hui par les collectivités, en particulier régionales ou départementales, qui soutiennent, par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis plus de 15 ans, le développement de cette diversification de l'économie des territoires de montagne, dans lequel il y aura, bien sûr, le produit ski, le produit neige, mais aussi à côté d'autres éléments comme la valorisation du patrimoine environnemental, culturel, l'agriculture, le pastoralisme ou l'artisanat. Et quelque part, c'est un peu retrouver cette économie diversifiée qu'on connaissait dans les années 60-70 dans ces territoires-là, avec un contexte qui évidemment est différent. Donc c'est arriver à accompagner cette transition de ces territoires-là.
Dernière question, il existe désormais des labels comme le flocon vert avec 21 critères. C'est un peu comme le pavillon bleu pour les plages. Est-ce qu'il est difficile à obtenir ce flocon vert, Samuel Morin ?
Alors, j'en connais pas tous les détails, mais la démarche, c'est vraiment de réfléchir globalement à l'empreinte écologique, à l'empreinte carbone et énergétique d'une destination touristique, et effectivement de quelque part d'auditer tous les différents postes et toutes les différentes processus de production de neige et puis de, généralement d'aménagement de la destination touristique. Et effectivement, c'est un label que de plus en plus de stations cherchent à obtenir pour structurer un petit peu leur façon de s'adapter à la donne climatique et puis d'engager cette transition avec une prise de conscience dont on mesure, nous, au quotidien, qu'elle est de plus en plus forte.
Merci beaucoup à tous les deux et à Lenny Bramia pour ce duplex dans les locaux de France Bleu à Grenoble.
La Terre au carré.
La Terre au carré refait ses fondations en ce 3 janvier. Nous irons pas très loin d'ici, dans les Yvelines, pour comprendre pourquoi un projet de carrière de calcaire dans le parc du Vexin, projet porté par une cimenterie, rend les habitants du coin extrêmement mécontents. Ce sera dans quelques minutes. En fin d'émission, du bénévolat écolo, comment savoir pour quelle association s'engager quand on a l'impression que l'on n'a ni le temps, ni le profil pour. Notre invité découverte vous facilitera grandement la tâche. Mais pour l'heure, nous sommes un vendredi et qui dit fin de semaine, dit aussi la chronique détox de Caroline Tourbe. Bonjour Caroline.
Bonjour Elodie.
Meilleurs vœux.
Merci, vous également.
Vous vous posez une question aujourd'hui, faut-il nourrir les oiseaux en hiver ou les laisser se débrouiller?
Oui, parce qu'avec le froid, nous sommes de plus en plus nombreux à installer des mangeoires sur nos balcons, dans nos jardins. Mais vouloir aider les oiseaux à passer l'hiver, est-ce que c'est vraiment une si bonne idée? Bon.
Alors, oh, on est bien là.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand on entend leur chant, mésanges, roitelets, pinsons, c'est difficile de résister à l'envie de les aider. En France, on estime que 10 à 20% des foyers possèdent une mangeoire qui est remplie régulièrement. C'est déjà beaucoup, mais c'est encore loin du Royaume-Uni où jusqu'à 70% des habitations seraient équipées. Et aux États-Unis, ce serait une famille sur deux qui nourrirait les oiseaux.
Mais la science s'interroge beaucoup sur les effets de ce nourrissage volontaire, sur la composition des populations d'oiseaux et sur leur cycle de vie.
Oui. À qui profite le nourrissage? Est-ce que c'est à la mésange? Est-ce que c'est au roitelet? Ou alors est-ce que c'est au pigeon? Bref, qui profite le plus?
Je ne sais pas lequel je préfère.
Ouais, qui profite le plus? Qui au contraire souffre potentiellement de la prolifération des mangeoires? La question est centrale. En Grande-Bretagne, une étude vient par exemple de montrer que le nourrissage volontaire a totalement remodelé les populations d'oiseaux présentes dans les zones urbaines depuis 40 ans.
Le nombre et la diversité des espèces ont augmenté au fil du temps.
Oui, dans les années 70, seules deux espèces, moineaux domestiques et étourneaux, dominaient les mangeoires au Royaume-Uni. Elles sont trois fois plus nombreuses aujourd'hui et c'est une excellente nouvelle. Mais les chercheurs soulignent aussi que les effets potentiellement négatifs sur les populations qui, elles, ne profitent pas des mangeoires restent inconnus, tout comme l'impact à grande échelle et à long terme de ces bouleversements sur l'écologie.
Le nourrissage pourrait, par exemple, contribuer à dérouter certaines migrations hivernales.
Oui, Elodie, carrément. Une étude menée par la même équipe a montré que des oiseaux originaires d'Europe centrale ne vont plus sur les rivages de la Méditerranée, mais choisissent désormais de s'arrêter chez nos voisins grands-bretons parce que les mangeoires y sont pléthoriques. L'abondance de nourrissage peut également provoquer un changement de régime alimentaire chez certaines espèces. C'est le cas des mésanges qui passent du statut d'insectivore à granivore. Et puis, le nourrissage modifie aussi les cycles de reproduction de certains oiseaux, comme les pigeons, qui se mettent à se reproduire toute l'année ou presque.
De nombreux scientifiques s'inquiètent aussi des effets négatifs du nourrissage sur l'extension d'oiseaux exotiques.
Oui. Et en France, on peut citer la perruche à collier, c'est elle que l'on entend. Elle est originaire d'Afrique ou d'Asie, elle a un plumage d'un vert très vif, c'est simple quand on l'a vu une fois, on ne l'oublie pas. Or, la taille des populations a augmenté de façon exponentielle depuis les trois dernières décennies et le nourrissage semble particulièrement leur convenir. Comme l'explique Marine Leloir, qui a réalisé avec Philippe Clergeau du Muséum d'Histoire Naturelle une étude sur leur tendance à squatter les mangeoires, ces grandes perruches passent près de la moitié de leur temps à manger chaque jour et pendant ce temps-là, les autres oiseaux attendent ou doivent même passer totalement leur tour. En Nouvelle-Zélande, une autre étude a également montré que la présence de mangeoires favoriserait les espèces envahissantes au détriment des espèces natives. Ces risques potentiels poussent certains scientifiques
pas tous, à dire qu'il vaudrait mieux éviter le nourrissage massif et laisser les oiseaux se débrouiller tout seuls.
Mais si on a quand même envie de se lancer dans l'installation d'une mangeoire, il y a de toute façon à respecter certaines règles, certaines précautions.
Oui, et là, il y a unanimité. Attention à rincer régulièrement la mangeoire avec de l'eau et du savon. Certains effondrements de populations d'oiseaux s'expliqueraient par la transmission de bactéries dans des mangeoires jamais nettoyées. Et surtout, tous les protecteurs des oiseaux vous le diront, il ne faut pas les nourrir en dehors des périodes de grand froid, de mi-novembre à peu près à mars. Pas avant, pas après, parce que sinon on risque vraiment de détourner définitivement les oiseaux de leurs habitudes. Et vous trouverez sur la page de la Terre au Carré un lien vers BirdLab, un site de science participative qui donne de nombreux conseils très avisés.
Merci Caroline Tourbe. Votre chronique détox à réécouter sur franceinter.fr. Et vous parliez de migration des oiseaux. Si la migration des oiseaux vous passionne, sachez que l'on y a consacré une émission le mercredi 1er janvier. C'est à réécouter sur franceinter.fr.
France Inter, la Terre au carré, vos solutions pour la planète.
Bonjour Olivier Nilus.
Oui, bonjour.
Vous êtes membre de France Nature Environnement, vice-président de l'AVL3C, j'espère que je le prononce bien, une association qui a un but très précis, lutter contre une cimenterie dans les Yvelines, en région parisienne, appartenant à la multinationale Heidelberg, cimenterie qui a obtenu un droit d'exploitation d'une carrière de calcaire dans le parc national du Vexin. Vous, Olivier Nilus, vous habitez dans le Vexin. Depuis combien d'années vous luttez contre cette cimenterie ?
Alors ça fait des années qu'on lutte contre cette cimenterie. Le parc régional du Vexin, c'est un endroit merveilleux qui normalement devrait être préservé, protégé, et ce n'est malheureusement pas le cas, parce que comme vous venez de l'évoquer, nous avons une cimenterie qui, par définition, est très polluante, et qui, pour disposer à nouveau de calcaire, parce qu'il faut faire chauffer du calcaire pour produire du ciment, eh bien, demander une autorisation pour exploiter une carrière de calcaire dans le parc régional du Vexin.
Parce que et ça, je ne savais pas qu'il fallait du calcaire.
C'est totalement antinomique, mais c'est malheureusement légal d'un point de vue juridique, notamment suite à un tour de passe-passe des autorités de l'époque, en 1995, date de la création de ce parc.
Mais quel est le problème avec cette cimenterie ? C'est un problème au point de départ, un problème de pollution, et le problème a changé il y a quelques mois, hein, c'est ça ?
Absolument. Alors, c'est un problème de pollution, tout simplement parce que cette cimenterie fait partie des 10 sites les plus polluants d'Île-de-France, et qu'à ce titre, elle émet énormément de pollution, notamment tout ce qui est métaux, tout ce qui est particules fines et j'en passe. Et pour continuer cette activité délétère, eh bien, elle a obtenu la possibilité de détruire une partie du parc régional du Vexin. Donc ce dossier est totalement incroyable, totalement aberrant.
Oui, ce qui est curieux, c'est que tous les élus de la région sont contre. Et pour autant, la cimenterie a quand même obtenu du préfet des Yvelines en juin dernier l'exploitation de cette carrière dont vous parlez, de cette carrière de calcaire dans le parc du Vexin. C'est quoi les arguments avancés pour conserver l'activité si tout le monde est contre ?
Alors, les arguments avancés, c'est le classique chantage à l'emploi. C'est il faut préserver des emplois et puis on a besoin de ciment produit au plus près de Paris pour le Grand Paris et les Jeux Olympiques. Et ce n'est absolument pas vrai. Hein. Il y a eu une enquête publique qui a été faite en septembre 2018. Vous avez trois commissaires enquêteurs qui ont pu piloter cette enquête. Et ils ont clairement dit que, certes, la cimenterie emploie environ 90 personnes, mais le projet de carrière détruirait autant d'emplois dans le parc régional qu'il n'en maintiendrait dans la cimenterie. Hein. C'est le relevé du rapport de l'enquête publique. Donc le chantage à l'emploi n'a absolument pas lieu d'être. Et puis, deuxième point, le ciment ne manque pas. La France a une capacité de production qui est largement excédentaire à ses besoins. Et cette cimenterie n'est absolument pas stratégique. Toujours, là, selon les commissaires enquêteurs, pour le Grand Paris, comme pour les JO, et cerise sur le gâteau. Le conseil de la ville de Paris, c'est bien la ville de Paris qui est en première ligne, pour ce qui est des Jeux Olympiques et du Grand Paris, bien en octobre 2019, a voté à l'unanimité, je dis bien à l'unanimité, contre ce projet de carrière, cette cimenterie.
Mais c'est ça que je ne comprends pas. Si tout le monde est contre, comment est-ce possible ?
Eh ben voilà, c'est une très très bonne remarque. On s'étonne alors que tous les élus, d'habitude sur des dossiers comme celui-là, les avis sont partagés. Or là, il y a unanimité, c'est-à-dire que tous les élus, en effet, comme vous venez de le dire, sont contre. L'explication qu'on avance, c'est que ce projet de carrière a obtenu de la part de l'État ce qu'on appelle un PIG, un projet d'intérêt général, et que ce projet d'intérêt général fait que si l'État devait se rétracter, ça coûterait certainement très cher en dédommagement à la cimenterie. C'est une hypothèse qui est émise par un certain nombre de nos élus.
Il y a d'autres carrières dans le parc du Vexin ?
Alors oui, il y a une carrière qui touche notamment à sa fin, qui se trouve à Bitrancourt, et c'est parce que cette carrière touche à sa fin que la cimenterie bien souhaiterait ouvrir une nouvelle carrière, c'est-à-dire à nouveau faire un énorme cratère, un terrain lunaire, et ce dans le parc régional du Vexin, pour pouvoir disposer à nouveau de calcaire et pour pouvoir continuer en faisant du ciment à polluer l'ensemble de l'île de France.
Olivier Nilus, je le disais tout à l'heure, vous luttez depuis des dizaines d'années. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes épuisé de cette lutte ?
Alors, épuisé mais jamais découragé, parce qu'il y a un travail phénoménal qui est fait par notre association avec L3C. On a vraiment bien tout décortiqué, tout analysé. Et on a beaucoup travaillé. On sait que, si vous voulez, le bon sens et l'intelligence, si j'ose m'exprimer ainsi, sont de notre côté. Que on défend une noble cause. Que ce dossier est totalement incroyable. Hein. Encore une fois, la dernière cimenterie en activité en Île-de-France, polluante, qui veut détruire une partie du parc régional du Vexin. Quoi, on marche sur la tête. Et c'est pour ça que l'ensemble des élus sont contre. Et puis on pourrait ajouter aussi que les agriculteurs sont contre. Hein. Ils sont parfaitement conscient du fait que cette terre, même si l'industriel promet que cette terre leur sera rendue dans 30 ans, mais elle perdra définitivement sa productivité. C'est impossible, et c'est ce qu'a écrit la Chambre d'agriculture, de retrouver une terre de qualité 30 ans après. Donc les agriculteurs sont contre, le parc régional bien sûr est contre, la fédération des parcs est contre, tout le monde est contre. Quoi. C'est totalement, encore une fois, c'est totalement incroyable.
Et vous l'êtes aussi, on l'entend. Merci Olivier Nilus. Toutes les informations, si vous voulez vous renseigner, avl3c.org et puis la page Facebook Vexin Zone 109.
Merci beaucoup à France Inter. Je voulais juste vous demander, madame, si je vous remercie, et je vais peut-être un peu abuser, mais France Inter nous a donné la parole, mais si vous pouviez nous donner un temps de parole beaucoup plus important la prochaine fois pour inviter tous les nombreux protagonistes de ce dossier, parce que nous n'avons pu que le survoler compte tenu du temps qui nous est imparti.
Oui, on a toujours envie d'avoir plus de temps, c'est vrai.
Oui,
nous
ouais.
aussi. Merci, à bientôt.
Pour une prochaine émission plus importante. Merci beaucoup.
À bientôt. C'est peut-être une de vos résolutions 2020, changer le monde, tout simplement. On vous aide à savoir comment, dans quelques instants, avec notre invité découverte.
Jimmy est solitaire, Jimmy s'affaire à s'affirmer pas à pas, même si tout ça est harassant parfois. Jimmy a le regard troublé, Jimmy le sait. C'est désormais sur celle-ci que s'orientent ses yeux conquis. Jimmy enchaîne les blagues, Jimmy divague, pensant déjà à la belle bague qui ornerait le doigt de sa future femme. Jimmy tâte le terrain, Jimmy sent bien. C'est terriblement grisant de s'attacher ainsi. La nuit, Jimmy gémit quand on lui dit que. Mais arrêtez de dire que. Jimmy aime qui Jimmy veut. La nuit, Jimmy gémit quand on lui dit que. Mais arrêtez de dire que. Jimmy aime qui Jimmy veut. S'approche, trop près de celle pour qui Jimmy s'accroche. Jimmy charme, Jimmy gagne la confiance de sa belle qui se laisse couler sous les draps jusqu'au souper. En s'oubliant, se laisser vivre. Jimmy a réussi son coup dans la rue à son bras à dulciner. Et Jimmy, que j'ai déjà beaucoup, ses plans sur la comète un jour des enfants à son cou. Jimmy voit très bien que les yeux étrangers regardent les siens. C'est sa première fois, sa première femme. C'est vrai, c'est pas la première fois qu'on les observe passer. La nuit, Jimmy. Quand on lui dit que, mais arrêtez de dire que. Jimmy aime qui elle veut. La nuit, Jimmy gémit quand on lui dit que, mais arrêtez.
chanson sur l'amour et la liberté. Aloïse Sauvage, Jimmy, sur France Inter.
La Terre au carré. Élodie Font.
Bonjour Manon Godefroy.
Bonjour Élodie.
En ce début d'année, est-ce que vous avez fait des résolutions ?
Oui, quelques-unes, oui.
Des résolutions écolo ou pas du tout ?
Entre autres, et arrêter la cigarette, par exemple.
Arrêter la cigarette, un grand classique des résolutions. Oui. Parce que si vous qui nous écoutez, vous voulez changer le monde, n'ayons pas peur des mots, une association vous aide à savoir comment et avec qui. Manon Godefroy, vous êtes coordinatrice de la vie associative chez Asteria, une association dont l'objectif est d'accompagner nos envies d'agir. Ça veut dire quoi déjà, Asteria?
Alors, Asteria, dans la mythologie grecque, ça signifie constellation d'étoiles reliées par l'être humain, entre elles, et évidemment qui nous servent de repères sur Terre. Donc c'est un beau clin d'œil, en tout cas ça nous incarne bien, puisque ce qu'on fait, c'est la mise en relation avec des personnes qui ont envie d'agir, envie de donner du sens à leurs actions et de se sentir utiles, avec des structures qui agissent déjà sur le terrain et qui œuvrent au quotidien.
Oui, l'idée, c'est de faciliter notre passage à l'action. Comment vous vous débrouillez pour faciliter notre passage à l'action ? Parce que parfois, c'est pas si simple.
C'est ça, à la création d'Asteria, en fait, les fondateurs sont partis d'un constat, c'est que énormément de personnes avaient envie d'agir autour de nous, mais entre l'envie d'agir et le passage à l'action concret, il y avait un fossé parce qu'il y a tout un nombre d'obstacles qu'on n'imagine pas, hein, qui sont pas facilement palpables, mais qui pourtant existent, à savoir pas mal d'idées reçues et de préjugés sur l'engagement citoyen, sur le bénévolat, comme j'ai pas le temps, j'aurai jamais suffisamment de temps pour concilier ma vie personnelle, professionnelle et une activité associative en plus.
Ça, c'est vrai que c'est le premier argument contre, entre guillemets, le bénévolat, c'est « j'ai pas le temps ».
Voilà, exactement. Et finalement, l'idée qui est très très liée à ce manque de temps, c'est la méconnaissance du tissu associatif et de toutes les manières qu'il existe pour passer à l'action. On remarque qu'à partir du moment où on explique aux personnes les modalités pratiques pour passer à l'action et le fait que ça peut prendre simplement 2 heures, un samedi par mois ou voire une action coup de poing dans l'année, ils réfléchissent un peu plus, ils reconsidèrent un peu mieux les choses et là, souvent naissent des envies nouvelles.
Aussi. Ce que vous voulez dire, c'est que on connaît des associations, des grandes associations, qui souvent d'ailleurs font du social. Hein, il y en a beaucoup dans celles qui sont connues qui font du social, et que l'on n'a aucune idée de ce qu'est le tissu associatif en France,
voilà.
Qui est beaucoup plus vaste.
Exactement. En plus, c'est pratique. On a fait un sondage en micro-trottoir il y a un mois de ça. Mmh. Et quand on a demandé aux gens où on pouvait être bénévole, la première idée qui leur venait, souvent ressortait la Croix-Rouge et les Restos du Cœur. Mmh. C'est vraiment les deux structures principales qui sont ressorties. En fait, en bas de chez nous, il peut y avoir des structures qui animent la vie de leur quartier, qui font vivre des jardins partagés, qui créent des boîtes à dons, bref, qui nourrissent un peu le tissu et fédèrent, créent du lien social.
Et est-ce qu'on vit, Manon Godefroy, dans un pays fortement mobilisé, un pays fortement associatif ?
Oui, alors peut-être que c'est parce qu'on est un peu dans l'entre-soi, nous, dans le monde associatif, mais en tout cas, on a un local associatif qui est à Pignon-sur-Rue. Et depuis qu'on a ce local, il y a quelques mois, beaucoup de personnes s'arrêtent du quartier ou alors qui passaient par hasard et nous posent des questions toutes simples. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que moi je peux aider ? Comment je peux participer ? J'ai pas beaucoup de temps, mais je veux me rendre utile. Et en plus de mon travail, je veux me nourrir d'autres choses. Donc là, c'est vraiment une préoccupation et bien souvent, effectivement, c'est tourné dernièrement sur le climat, l'environnement, la nature, ce qui nous entoure, qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent. C'est une vraie source de préoccupation.
On voit sur votre site, vous parliez d'un micro-trottoir, le site Asteria, que les gens aussi se demandent s'ils ont le bon profil.
Oui, alors souvent aussi, ce qui peut freiner les gens à passer à l'action, justement, c'est qu'ils se disent, qu'est-ce que j'ai apporté finalement ? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires ? Est-ce que je peux ? Est-ce que vraiment je vais servir à quelque chose ou je vais être un frein ? Et on leur explique que, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil pour être bénévole. La seule chose qu'il faut, c'est la motivation et l'envie d'agir.
Ça m'a fait rire parce que certains pensaient qu'il fallait être de gauche.
Ah oui, bobo, de gauche, avec le cœur sur la main, et puis avec beaucoup de temps, donc pas forcément de famille, etc. Donc, oui.
Ça dépeint une sacrée image du bénévole. En tout cas, vous, votre idée, c'est de permettre à chacun d'agir en conscience, en connaissant un peu mieux ce monde du bénévolat, Manon Godefroy. Et pour y voir plus clair, il y a un guide pour agir, en l'occurrence à Paris et ses alentours. Vous êtes uniquement basé sur la région parisienne pour l'instant ?
Oui, on est une association francilienne, oui.
Le guide est scindé en plusieurs portes d'entrée, si l'on peut dire. Par exemple, le premier chapitre, c'est agriculture et alimentation. Et ensuite, vous recensez des associations qui luttent contre les OGM, des fermes alternatives, des contacts pour créer votre propre AMAP, pas facile à dire. Vous nous prémâchez le travail, en fait.
Oui, voilà, tout à fait. L'idée de ce guide pour agir, c'était de donner tous les trucs et astuces à quelqu'un qui a envie d'agir, mais qui n'a vraiment aucun repère, qui ne sait pas par où commencer. Donc là, il y a avec ces 16 grandes portes d'entrée, hein, qui, comme vous l'avez si bien dit, vont de l'agriculture à l'éducation, à la lutte contre les discriminations, au numérique libre et solidaire. Voilà, on a essayé de passer un petit peu toutes les opportunités d'engagement en revue. Et l'idée, c'est qu'à l'intérieur de ce guide, on a mis plus de 230 manières d'agir concrète en lumière.
Oui, avec des exemples très précis de ce que l'on peut faire au quotidien.
Voilà, du plus petit geste d'engagement qui peut être par exemple de signer une pétition en ligne, c'est déjà un acte citoyen, à lancer sa propre manifestation ou lancer un boycott d'une marque. Voilà, des actions qui sont plus chronophages et qui sont pourtant des gestes qui animent la vie de la cité et qui nous permettent d'avancer.
Est-ce que les associations écolo ont la cote, Manon Godefroy?
Oui, les associations écolo ont la cote à Paris. Je pense que ce qui a bien réveillé aussi les consciences, c'est les différentes marches pour le climat, les différentes manifestations qui ont lieu à Paris et où on a vu de nombreux jeunes, étudiants, adolescents et autres se mobiliser.
Par exemple, il y en a plein hein, des exemples, mais par exemple Icitaire qui fait la promotion d'une agriculture alternative, par exemple.
Oui, oui, Icitaire, une association de permaculture urbaine, elle essaye de cultiver le lien au vivant à travers l'agriculture, la pratique artistique et l'organisation d'événements interculturels. Alors eux, ils recherchent des bonnes volontés toute l'année, à la fois pour les aider à jardiner, parce qu'ils ont lancé un jardin partagé sur le site des Grands Voisins, dans le 14e, mais aussi pour animer des ateliers. Alors ça peut être des ateliers de teinture végétale, de lombricomposteur ou de jeunes pousses. Et il est aussi possible, en fonction de ses connaissances et de ses compétences, eh bien d'en proposer d'autres, des ateliers. Cette force de proposition.
En fait, c'est vos solutions pour la planète, mais un guide entier de vos solutions pour la planète. Il y a aussi Génération Cobaye, par exemple, sur la sensibilisation à la réduction des déchets. Les thématiques qui accrochent le plus les gens, c'est quoi ?
Alors, c'est bien souvent l'écologie, mais il y a aussi le féminisme, la lutte contre les discriminations, donc l'aide envers, par exemple, les personnes réfugiées en demande d'asile. Et puis il y a aussi tout ce qui a trait à l'obsolescence programmée, donc au numérique. Ça attire énormément aussi.
Attire aussi beaucoup. Je plaisantais tout à l'heure avec cette idée de résolution, je vous demandais si vous en aviez pris. Mais sérieusement, à ce moment-là de l'année, est-ce que vous avez plus de demandes ?
Alors rien que avant les fêtes de fin d'année, je dirais début novembre, il y a eu plus de demandes du guide pour agir parce que certaines personnes estimaient que ça allait vraiment ouvrir les yeux de leurs proches ou en tout cas bien répondre à leurs questions du moment. Donc ça prouve que les fêtes de fin d'année réveillent aussi la solidarité chez certains et certaines.
Ce qui est intéressant, c'est que votre association Asteria vous permettez à des gens de venir vous voir, on peut venir frapper à votre porte, et vous nous conseillez ensuite pour telle ou telle association. Comment vous procédez pour orienter les gens ?
Alors on a un numéro et puis une adresse mail et puis un local dont la porte est toujours ouverte. Et effectivement, quand les gens franchissent cette porte-là, on essaye tout d'abord de comprendre ce qui les a poussés à venir. C'est déjà un gros cap. Hein, d'avoir envie d'agir et en plus de ça, de se rendre jusqu'à un local d'association, ça prouve qu'il y a quand même plus qu'une envie, il y a une détermination. Donc de là, on essaye de comprendre qu'est-ce qui les motive à agir. Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Donc, on essaye de comprendre leur centre d'intérêt, leur sensibilité, quelles grandes causes les touchent, les intéressent. Et puis, on va essayer aussi de prendre en considération leurs contraintes personnelles ou professionnelles. Est-ce qu'ils veulent agir à l'échelle de leur quartier, de leur arrondissement ou de la ville de Paris ? Est-ce qu'ils ont un travail très prenant ? Est-ce qu'ils ont des problèmes de mobilité et qu'ils ne peuvent pas se déplacer ? Voilà, on essaye de prendre tout ça en compte. Et une fois que toute notre grille interne est remplie, on est plus à même, plus apte de leur proposer des structures avec qui pourraient leur correspondre, avec qui ils se projettent bien.
En fait, vous êtes des conseillers d'orientation de l'associatif.
Oui, c'est complètement ça.
Le guide pour agir que j'ai entre les mains, il a pas de prix fixe, hein. Vous pouvez mettre le prix que vous voulez et il se trouve un peu partout. On le trouve où exactement ?
Alors, on le trouve à la fois dans notre local associatif dans le 18e, ouais. Et puis on le trouve aussi sur Internet, sur une plateforme qui s'appelle DreamAct, qui propose que des produits faits par des artistes, des artisans, des produits responsables. Et au-delà de ça, vu que ça nous suffisait pas, on a développé un réseau d'ambassadeurs du guide. Donc là, c'est des commerces de proximité, c'est des librairies.
On peut le retrouver.
Où on peut tout à fait le retrouver.
Et ouais. Vous trouvez tout ça sur le site Astéria. On va vous mettre les liens sur franceinter.fr. Merci beaucoup à la préparation de cette émission. Merci à Denis Delbecq, à la rédaction en chef, Sophie Vaux et Clara Marlio pour la préparation des dossiers, Anna Massardier pour les réseaux sociaux, Thierry Dupin à la programmation musicale. La Terre au carré se réécoute en podcast et sur franceinter.fr. Merci à tous pour ce formidable accueil. Mathieu Vidard reprend lundi la tête de La Terre au carré. Ce fut un grand plaisir pour moi de passer ces fêtes avec vous, chers auditeurs de France Inter. À très bientôt.